m'a semblé bon pour continuer des signes naturels, de la contemplation naturelle que nous avons commencé ce matin, que nous pourrions voir ensemble l'encyclique du pape que vous connaissez bien, que vous avez lu, que vous connaissez, Laudato si, mais on peut le redire ensemble, puisqu'il m'a semblé que c'était vraiment dans la ligne de cette méditation de ce matin. C'est pourquoi je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? Et puis il m'est venu à l'idée de dire, mais pourquoi pas Laudato si, Laudato si. Alors, vous avez lu cette encyclique et certainement plusieurs commentaires, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été faits, bien sûr. Il s'agit d'un travail de réflexion sur l'écologie. Dans cette encyclique, on peut voir l'importance que le pape accorde à l'œuvre du Créateur et le respect nécessaire que cela entraîne dans cette œuvre prodigieuse de création. Et devant les progrès scientifiques incessants de tous ordres et leurs applications le plus souvent dirigées vers le profit au détriment de notre planète, le pape appelle la maison commune et il veut alerter par cette encyclique en disant qu'il est encore temps que malgré la course effrénée vers la consommation des choses, des richesses naturelles, des écosystèmes qui disparaissent, de la nourriture sont privés les plus démunis de ce monde, devant tous ces cris ignorés des puissants, il est juste temps de se reprendre. Sinon, on va vers la catastrophe. Le pape propose alors une longue et précise réflexion sur l'état actuel de notre monde, propose des moyens de redresser cette situation catastrophique. Il s'adresse avant tout aux décideurs, à tous ceux qui ont des pouvoirs et des responsabilités d'intervention, à tous ceux qui recherchent un profit immédiat, qui n'ont aucun sentiment humain, qui laissent les générations à venir sur une planète devenue invivable. Alors cette vision d'ensemble fait la presque totalité de l'encyclique. C'est normal que le pape ait une vision d'ensemble de l'endroit où il parle. Et nous-mêmes, nous y relisons des aspects que nous connaissons déjà bien, comme le réchauffement climatique et ses conséquences qui vont s'empirer si on ne fait rien pour réparer les brèches. Mais est-ce que cette voix sera entendue? Ce qui l'emporte aujourd'hui, n'est-ce pas plutôt le profit aveugle, avec toutes ses conséquences désastreuses pour la vie des plus pauvres? Et le pape, tout en parlant d'économie, d'écologie au niveau de l'économie tout simplement, parle beaucoup des pauvres. Peut-on espérer un sursaut de fraternité pour sauver ce que le pape appelle la maison commune? Le pape semble vouloir dire ou croire que c'est encore possible, à condition d'agir vite. Alors se pose la question, qu'est-ce que l'écologie, en fait? Eh bien, habituellement, on donne deux définitions de l'écologie. Une définition scientifique, et on dira que c'est une étude des êtres vivants dans leur milieu, de façon à mieux comprendre les êtres vivants, leur façon de vivre, le lieu où ils vivent, les relations qu'ils entretiennent ensemble, en un mot, tout ce qui forme des écosystèmes. Voilà, c'est une première donc définition qui concerne les animaux et le milieu, les vivants, tous les vivants, dans leur lieu d'existence. Il y a une autre définition courante, dire que l'écologie, c'est une doctrine qui cherche à réaliser un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, avec la protection de cet environnement. Donc on voit que cette deuxième définition est plus politique, au sens où elle situe l'homme aussi dans son milieu, mais elle va étudier le type de relation, tout ce qui pourrait donc favoriser les relations que l'homme a avec son milieu, hein, pour le respecter. Le pape emploie le mot maison commune. On peut rapprocher cette appellation du mot écologie, puisque en fait la maison commune et l'écologie c'est éco et logos, c'est-à-dire une étude de l'habitat humain. La maison commune, c'est donc l'écologie selon le pape, c'est donc une étude de l'habitat humain. Cette science de l'écologie est apparue fin 19e, en réaction contre l'ère industrielle, pour réagir aux pollutions, aux dégradations de la nature. C'est donc simplement un courant qui veut se protéger, qui veut lutter contre cette dégradation apparue par la société industrielle. Et puis, à partir des années 1960, ce courant naturel, si on veut, naturaliste, va devenir un courant politique. Et alors, il se veut protéger les écosystèmes, la biodiversité et l'environnement en général. Alors, le but de l'écologie sera de ralentir la dégradation des conditions de vie de la planète de lutter contre les pollutions, tous les déséquilibres dus aux activités humaines, comme celui qui est le plus connu de tous, qui est le réchauffement climatique. Alors nous voyons dès aujourd'hui les conséquences alarmantes de ce réchauffement climatique, et on apprend que ça ne pourra que s'empirer si on ne fait rien pour changer le système de production de l'économie mondiale. Puisque on constate que le réchauffement a créé une fonte importante des glaces, l'élévation de la température du niveau de la mer, entraînant l'extinction d'espèces qui vivent par exemple dans les régions polaires, une surexploitation des ressources naturelles, dégradation des fonds sous-marins, avec des techniques de pêche industrielle qui ravagent tout, disparition des forêts nécessaires à l'équilibre écologique. Tous ces mots, on les connaît tous les temps. Ils ne cessent pas d'être répertoriés. L'écologie a longuement été ignorée et refusée. Comme aujourd'hui, le président des États-Unis le fait, qui refuse de considérer la réalité du réchauffement climatique. Alors, l'encyclique du pape appelle à la conversion des mentalités, pour une gestion équilibrée et respectueuse de l'environnement. C'est de cette encyclique que nous allons essayer de tirer des réflexions et des enseignements pour notre retraite, là, maintenant. Le pape nous demande d'ouvrir les yeux sur la magnificence, la beauté, l'immensité, l'harmonie de toute la nature, de la nature entière, et d'en tirer le respect des lois naturelles posées par le Créateur, qui demande qu'on se soumette à cette perfection par une vie personnelle, humaine, morale et religieuse. Il en découle donc une morale. Mais depuis les révolutions des mœurs, chacun se veut son propre Dieu, souverain en toutes choses, n'ayant de compte à rendre à personne. Comment sortirons-nous alors de cette civilisation égoïste et qui oublie le commandement de Dieu? Là, il y a quelque chose de vraiment très... On pourra en discuter, là. On peut s'arrêter et puis discuter, si vous voulez. C'est... Il y a une obéissance à la nature. On refuse le droit naturel. Il y a une obéissance des lois. On ne peut pas faire n'importe quoi. Le monde ne nous appartient pas. Le monde est à Dieu. Nous sommes invités à vivre pour un certain temps dans un lieu qui n'est pas à nous, mais qu'on s'approprie, que le Seigneur veut bien nous donner pour y réaliser une certaine histoire, pour un certain temps, pour laisser à d'autres aussi de pouvoir le faire dans des conditions les meilleures. Demande, qu'est-ce qu'on va laisser aux enfants? A-t-on le droit de saccager d'un seul coup, en l'espace de quelques années, tout ce que la nature, que le Seigneur a voulu, mettre au fond des mers, par exemple, pour toutes ces richesses naturelles de pétrole qui sont au fond des mers. C'est des forêts entières, pendant des siècles, qui ont permis aujourd'hui ces ressources intérieures de la terre. Mais vraiment, qui a conscience qu'il est invité à vivre dans un monde que Dieu a créé, qui lui appartient? Voilà ma question. Je ne sais pas ce que vous ressentez.
Je pense que c'est aussi le fait d'avoir rejeté Dieu, et que le monde a rejeté Dieu, donc il ne voit plus du tout l'œuvre de Dieu dans la création. C'est basique, mais...
Oui, il y a une conséquence.
On ne voit plus la création comme l'œuvre de Dieu.
C'est le problème actuel.
On a le droit de faire ce qu'on veut.
J'ai l'impression que c'est effectivement un peu de tout le monde, et on a fait ce qu'on veut, et puis le moi d'abord, quoi. Enfin, j'en tire ce que j'ai envie d'en tirer, et c'est à la fois l'égoïsme, enfin, une société un peu égocentrique.
Il profite de ça, ce que... Oui. Parce que
moi je peux en tirer du profit.
Voilà, moi, je vois bien ce qui se passe dans les terres agricoles sur l'Aube, hein, c'est ça. Ouais. Pour l'instant, c'est à outrance les pesticides et les engrais pour que ça rapporte le plus possible. C'est des céréaliers, alors. Ouais.
Et le sème est égal de l'autre dans beaucoup
quand
de
on leur pose la question, ben... Non, c'est pas rien n'est néfaste, tout est bien. C'est un peu. Mais là, moi, je rejoins qu'ils n'ont pas compris que oui, la création, elle vient de Dieu et qu'elle ne nous appartient pas. C'est ça le.
Il y a une forme d'obscurantisme aussi, de ne pas vouloir voir des choses qui sont quand même prouvées maintenant, mais voilà. On ne peut pas entendre ce qui dérange et ce qui va à l'encontre de. Ce type de...
Jean-Paul II.
Ben, quand comme les usines de produits chimiques, on devrait les interdire. Ils savent très bien que c'est néfaste et tout, et pour l'homme et tout, mais on continue. Alors je trouve que là, j'avais vu une émission, mais moi, après, j'en étais restée complètement révoltée, parce que je me dis, moi, continue.
Si on interdit, les usines de produits chimiques, il faut commencer par ne plus utiliser de produits chimiques.
Ah, bah oui, non, mais ça, c'est...
C'est nous qui entretenons les usines de produits chimiques.
Et puis on est dans un monde de séduction, alors c'est ça le problème aussi.
Mais non, là, je crois que pub et tout ça. Tu es en train de dire quelque chose qui nous atteint directement.
On est concerné.
Nous aussi, nous sommes impliqués dans cette affaire.
Mm-hmm. Nous utilisons l'électricité, donc on a besoin de centrales thermiques.
Oui.
Si on arrête d'utiliser l'électricité. Mais c'est pas possible.
Mais on voit que c'est à la fois vrai et faux. Par exemple, au Japon, il y a eu le problème de Fukushima.
Oui.
Ils ont arrêté de nombreuses centrales nucléaires de ce fait. Et ils ont continué à fonctionner. Et dans un monde encore toujours autant industrialisé. Mmh. Et bien maintenant, ils remettent en marche. Et on en a. Des fois, on a une image des Japonais très portée à temps. En fait, ils ne sont pas du tout attentionnés à l'écologie. Nous, Aurore, Emmanuel et Loïc, Loïc, c'est le mari d'Emmanuel, qui est donc notre. Emmanuel et Loïc, ils vivent au Japon depuis 6 ans. Et Loïc, il travaille, il est très porté sur les questions environnementales, et en ce moment, il travaille entre autres sur la pose de.
Photovoltaïque.
De photovoltaïque sur les plans d'eau, sur les réserves de rizières. Eh bien, par des choses bénignes, même le tri simplement, comme nous on peut faire à notre maison, ça leur est, c'est pas leur préoccupation. Et c'est plein de choses comme ça, quoi. Alors c'est vrai que ça dépend de notre comportement, de chacun, ça c'est évident. Moi je pense qu'il y a aussi... Le monde de l'industrialisation nous a éloignés de la terre, de la nature, et même le milieu agricole dont tu parlais s'est éloigné de ça parce qu'on a beaucoup mécanisé. C'est-à-dire
c'est
le chacun pour soi, il est venu que où il y avait 10 personnes pour travailler sur une exploitation, un seul suffit avec ces grosses machines. Il y a une surenchère. Oui. Nous, on le voit même dans notre région où il n'y a pratiquement pas de culture. C'est insignifiant les cultures qu'il y a. Eh bien, ils achètent des tracteurs. L'autre jour, je suis resté, mais alors, baba, j'ai vu un tracteur, les roues arrière étaient plus hautes que moi. Les roues avant étaient aussi hautes. Pour faire quoi comme travail? Donc, il y a une surenchère à la finance, comme ça, mais un marchand de machines agricoles, lui, il se frotte les mains. Il sait très bien que c'est complètement disproportionné à leurs besoins. Mais lui, ça lui fait du fric.
Mais
on est tout comme ça. Et par exemple, nos enfants qui ont... Que ce soit Aurore, qui a été en Amazonie équatorienne, François, qui est allé dans une forêt primaire au sud de l'Alaska pendant quelques mois, ou Myriam, sur les montagnes du Kazakhstan, à la limite de la Chine... Et ils ont rencontré des gens qui sont très proches de la nature parce que ben, ils savent que pour survivre, c'est leur seul moyen, quoi. Donc, de respecter la nature, de respecter les animaux, de respecter tout cet environnement, quoi.
Et avec le synode, on entend beaucoup parler de ça quand même, hein, voilà, de la forêt amazonienne et de tous ceux qui y vivent.
Alors,
et quand même, en France, il y a quand même certaines personnes qui bougent. C'est minime, mais on entend un peu plus en parler. Mais auprès de chez nous, moi, je prends des exemples peut-être très simples. C'est plus les grosses industries et tout ça. Mais quand je vois chez moi, de ma porte, il n'y a que deux portes au-dessus. Et il reste d'autres portes derrière. Mais de ma porte, arrivée sur la route, quoi, il n'y a pas une grande distance, vous trouvez 30 mégots de cigarettes. Vous savez qu'il y a un gardien qui va les enlever, qui va faire en quelque sorte le ménage devant ces bâtiments. Le lendemain, vous en avez autant. Mais enfin, c'est à petit niveau qu'il faut prendre conscience. On est tous touchés.
Partout, moi, l'autre jour, je faisais du vélo. J'étais stupéfaite
J'avais le temps dans une montée, mais je me dis, c'est pas possible. Dans une montée, les canettes de bière, les mettre tout sur le bord de la route. Ah là là, je dis, il faudrait que je revienne et puis que je fasse de la marche là, et puis je prenne un sac et ramasser tout ça. Je me dis, ils n'ont pas conscience. Oui.
Au fond des mers, c'est pareil. Sur les côtes, les rivières, c'est pareil. Quand on voit tout ce qu'on dégage. Mais c'est dingue. Excusez-moi.
Alors, le pape, en fait, eh bien, relie ce que vous... C'était bien, parce que tous ces aspects que vous dénoncez, le pape le dénonce et en prend exemple pour avertir, donc, et Laudato aussi, c'est tous ces chapitres qui s'intéressent d'abord aux grands décideurs, parce que nous, que voulez-vous qu'on fasse pour le kérosène, par exemple, eh bien, qui va... dont se servent les avions, comment arrêterons-nous par nous-mêmes des vols d'avions? Quand vous avez besoin, vous prenez l'avion, etc. Nous sommes dans une société de ce genre, hein, faut regarder les choses en face. Alors le pape, alors j'ai essayé de trouver deux niveaux, j'ai essayé de lire deux niveaux là-dedans. C'est-à-dire un premier niveau où le pape parle aux grands, pour tous les grands décideurs, pour les grandes questions, c'est-à-dire pour ce qui nous dépasse, nous, hein, qui font partie de ceux qui vont décider en bourse ou n'importe comment, hein, qui vont décider le prix de baril, qui vont décider les productions, etc., etc. L'économie qui nous dépasse. Voilà, ça c'est un niveau. Alors dans ce niveau-là, le pape va aussi dénoncer tous les gaspillages de nourriture. Il va parler surtout de la grande question de l'eau, ou dans les grandes mégopoles qui ont tant besoin d'eau, de ce gros problème de l'eau pour même les plus pauvres dans certains endroits à cause de la guerre qui n'en ont plus. Pour les déchets, il parle aussi des déchets, de tous les gaspillages. Voilà. Et alors, il traite après de... Moi, j'ai lu à peu près trois chapitres surtout, où on peut retirer quelque chose à notre niveau, à nous. Parce que vous voyez, le premier niveau nous échappe quand même, dans les réflexions que fait le pape dans l'encyclique. Et je crois que le chapitre second peut être un chapitre qui nous concerne directement. D'abord parce que le pape, comme vous l'avez lu, réfère Saint François. Il se réfère beaucoup à Saint François. Donc, à ce niveau-là, il va... Eh bien, c'est ce que nous faisions ce matin, c'est la réflexion que nous faisions ce matin. Avec Saint François, le pape voit, en se référant à Saint François, que là, il va toucher le cœur de... Enfin, le cœur de nous, les petites gens, quoi, pour nous rappeler alors une vie spirituelle. Et il parle beaucoup de vie spirituelle. Alors la première des vies spirituelles, c'est de qui nous traite dans le chapitre second, en entier. Il traite de la création en nous rappelant la bonté du Créateur, qui fait participer d'autres existants à son bonheur éternel. C'est ce que nous avons essayé de méditer, nous, ce matin aussi, hein. La bonté. Alors il va traiter en long et en large de la bonté du Créateur qui crée ce monde dans un acte de bonté pour faire participer à sa gloire, à son bonheur. Ça, ce sera le chapitre second. Il y a un autre chapitre sixième, parce que j'ai essayé, c'est pas facile de trouver des chapitres qui vont nous parler directement pour nous, et qui est le chapitre sixième, qui offre quelques pages qui peuvent nous aider à mieux saisir nos devoirs en récompense de ce don gratuit de l'existence qui nous est accordé. Donc, ces deux chapitres-là ne sont pas directement liés à la question de l'écologie, là, hein, mais plutôt à cette vision spirituelle dans laquelle, par laquelle nous voyons que nous sommes placés dans un monde où, placés par Dieu dans un monde par sa bonté à lui de nous avoir créés et placés dans ce monde, un monde qui lui appartient. Les autres chapitres ont bien aussi toute leur valeur, et ils fournissent des réflexions pour notre époque. Ils peuvent donc enrichir notre connaissance des enjeux de survie de cette planète, mais il s'adresse surtout à des niveaux supérieurs, des décideurs. C'est pourquoi nous pouvons examiner en premier lieu notre Dieu créateur et en deuxième lieu le regard qu'avait Jésus sur le monde pendant qu'il vivait sur cette terre. Lui qui est le regard de Dieu. C'est intéressant de voir comment Jésus lui-même regardait ce monde et comment, dans sa prédication, il en parlait et il profitait de son regard sur le monde, sur la connaissance qu'il voyait, qu'il prenait, pour faire ensuite des paraboles qui s'adressaient pour ouvrir les gens à une vision beaucoup plus grande, celle du royaume. Et en dernier lieu, un regard nouveau, contemplatif, de notre maison commune. La question qui se pose là, à ce moment-là, c'est une question de, comme il le dit, d'une nécessaire sobriété. C'est une question pour notre vie morale à chacun. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous ramène à notre niveau à nous. La vie chrétienne ne peut pas se passer de morale pour mettre en pratique les commandements nouveaux, les commandements divins. Car la morale règle nos façons de vivre et nos relations aux autres. Il y a une morale chrétienne qui découle des principes chrétiens que nous a posés, qu'on trouve donc dans la révélation, et qui a été aussi donné tout au long du Seigneur Jésus sur cette terre. Dans tout son enseignement, il y a toute une vie morale qui s'adresse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tout un ensemble de choses, l'hospitalité, etc. Donc, l'Évangile est aussi un code de vie morale où on apprend comment le Seigneur Jésus lui-même vivait au milieu des siens et leur enseignait à régler leurs relations. Bien, cette petite réflexion permet de relire l'Évangile autrement, de relire la parole autrement. Hein? Quand vous lisez l'Évangile en cherchant, bon, c'est une lecture, il y en a beaucoup d'autres, mais déjà cette petite lecture-là, de voir comment le Seigneur Jésus obéissait à son Père, obéissait à la nature, utilisait la nature pour parler, pour enseigner. Ceci nous amène à considérer l'homme dans sa vocation de fils de Dieu. Alors, bien sûr, pour cela, alors donc la sobriété dont parle le pape à certains moments le pape, il nous appelle à vivre dans la sobriété des personnes qui sont invitées par Dieu à vivre en ce monde. La sobriété est certainement la plus grande spiritualité d'une écologie personnelle. Bon, ça c'est une question là maintenant. Hein, c'est une question importante. Comment vivons-nous cette sobriété qui est peut-être la meilleure façon pour nous de vivre l'écologie à notre niveau à nous? Ça nous entraîne sur le refus du gaspillage, sur une vie beaucoup plus sobre, ou par exemple, je ne sais pas, à Noël, combien de jouets, de choses vont être dépensées, combien, etc. Il faut le faire, il faut fêter, c'est pas, je ne suis pas contre, mais combien et combien, quand on voit par exemple le nombre de jouets dans les enfants, alors que nous, dans notre enfance, on jouait avec un morceau, avec une caisse et c'était beaucoup mieux pour l'éducation de l'enfant.